BPM, élection départementale 2021.
Bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre, les élections départementales auront lieu le 20 et 27 juin prochain. Cette occasion, BPM vous propose jusqu'au 18 juin des émissions spéciales. Les candidats pour les cantons de Mantes-la-Jolie viennent répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous continuons à nous intéresser au canton de Mantes-la-Jolie et nous accueillons ce matin Audrey Allier et Dylan Gelton, candidats de la gauche écologiste et socialiste unie du Mantois. Audrey Allier, bonjour.
Bonjour.
Dylan Gelton, bonjour.
Bonjour.
Alors, Dylan Gelton, vous avez 24 ans, vous êtes informaticien, formateur et conseiller municipal Europe Écologie Les Verts à Magnanville. Audrey Allier, vous avez 39 ans, vous êtes chef de projet éditorial et coordinatrice du Mantois Insoumis. Durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets des compétences du département. Tout d'abord, je vais vous demander d'expliquer pourquoi vous vous présentez à cette élection.
Pourquoi je me présente aujourd'hui ? Pour des raisons politiques, d'une part, pour la gauche, mais pas uniquement. J'estime qu'on vit aujourd'hui dans un département qui est pris en otage, qui est complètement verrouillé, qui est complètement asphyxié par une droite que je qualifie de nauséabonde. C'est pas la droite, c'est pas n'importe quelle droite, c'est celle du président Pierre Bédier. C'est une droite clientéliste, communautariste et affairiste. Et ça dure depuis plusieurs décennies. Donc j'estime qu'on a besoin d'air, qu'on a besoin de plus de démocratie, de plus de transparence et de plus d'intégrité. Donc c'est ce combat politique que j'ai envie de porter aujourd'hui. J'ai envie de développer des compétences départementales pour les intérêts des Yvelinois et pas pour ceux d'une poignée d'hommes. Le conseil départemental, il travaille entre autres avec l'argent des impôts des Yvelinois. Donc ils doivent aujourd'hui exiger un droit de regard sur les décisions qui sont prises. Ils doivent être davantage concertés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les citoyens ils subissent des projets flous qui tombent de manière verticale. J'estime que ça suffit.
Alors, comment on ferait ?
Comment on ferait ?
Bah oui, bah, comment on ferait ? Parce qu'en général, on élit quelqu'un, la personne est élue et déroule son programme sans forcément demander à chaque fois. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe un peu partout en France, hein. Que ce soit droite, gauche... Ça changerait. Comment on ferait alors ? Qu'est-ce qui changerait ?
Ce qui changerait déjà, c'est l'importance de faire venir une opposition dans ce conseil départemental. Moi, ça me tient à cœur d'endosser ce rôle finalement de lanceur d'alerte, exiger une visibilité tout simplement, voir ce qui se passe au sein de ce conseil départemental, d'en informer les gens, de mettre en place des systèmes d'audit et surtout de développer beaucoup plus de concertation avec les citoyens.
Et vous, M. Gelton, pourquoi vous présentez-vous ?
Globalement, pour défendre les mêmes valeurs forcément qu'Audrey. Moi, je suis arrivé en politique à travers le réseau associatif et l'implication dans la vie associative du Mantois. C'est là que j'ai pu voir comment ça se passait par rapport aux relations entre les associations, les citoyens qui essayaient d'organiser des choses et les collectivités. Donc du coup, c'est vraiment ça qui m'a amené... À me présenter d'abord aux élections municipales et maintenant aux élections départementales. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, sur comment ça peut s'organiser de consulter les citoyens une fois qu'on est élu, il y a ce qui se passe dans beaucoup de départements, dans de plus en plus de départements et dans certaines communes, c'est les budgets participatifs. Nous, on propose un budget participatif à hauteur de 5% du budget d'investissement du département. Ce qui veut dire que les citoyens pourront décider 5% de l'investissement du département, vers quoi on le dirige et à quoi ça sert. Donc c'est aussi ça...
C'est des référendums ? Ferait ça en...
Alors en général, ça s'organise avec plusieurs phases. Une première phase où on essaye de récolter le plus possible d'idées des personnes. Et ensuite, les services du département peuvent travailler concrètement les sujets, voir si c'est réalisable ou pas, peut-être même les chiffrer. Et après, il y a effectivement des sortes de référendums pour savoir quel projet est retenu et quel projet sera effectivement réalisé.
Alors on va commencer avec l'action sociale et sanitaire. Comment souhaitez-vous aider les familles les plus fragiles, bénéficiaires du RSA, personnes âgées ou encore personnes en situation de handicap ?
Alors sur les personnes les plus fragiles, pour les aider, il y a plusieurs catégories d'âge. Déjà, il y a les jeunes qui sont très très précaires dans le Mantois, plus qu'ailleurs, qui ont subi une situation qui ne s'arrange pas avec le Covid. Je pense qu'on a tous en tête les images des files d'attente devant les les distributions alimentaires pour les jeunes. Donc l'idée, c'est de mettre en place un RSA jeune, comme par exemple le fait depuis peu la métropole de Lyon. L'idée, c'est d'essayer d'avoir, pour ceux qui ne peuvent pas toucher d'aide, donc qui ne rentrent pas dans les dispositifs existants et qui gagnent moins de 400 euros par mois, essayer de les accompagner donc financièrement, en leur permettant de toucher pendant 2 ans jusqu'à 400 euros par mois pour qu'ils puissent déjà survivre, et puis avec l'aide des missions locales, les accompagner pour qu'ils puissent trouver un emploi et sortir de ce dispositif en ayant un emploi et en ayant des revenus dignes. Ça passe aussi par l'obtention d'une mutuelle, puisque que ça soit les jeunes ou plus globalement les bénéficiaires du RSA, les chômeurs, c'est très compliqué d'avoir une mutuelle actuellement, donc ça pourrait être des aides du département pour obtenir une mutuelle.
Mais il n'y a pas la CMU ?
Alors c'est pas suffisant. Moi,
je pose des questions.
Hein. Oui, mais c'est pas du tout suffisant. Quand on voit même des personnes qui ont des mutuelles par leur travail, on voit bien que la santé ça coûte très cher et que les aides sont pas
surtout les dents et les yeux.
Voilà, surtout les dents et les yeux. Et les dents, c'est quelque chose qu'on fait quand on est jeune, notamment. Donc c'est vrai
un peu plus vieux aussi.
Un peu plus vieux aussi. C'est pas la même chose effectivement qu'on fait, mais
on met plus d'appareils, on change des dents après. Voilà. C'est différent.
mais effectivement, le problème des mutuelles, c'est quelque chose qui est très présent, d'autant plus qu'elles remboursent finalement de moins en moins bien, ou alors sont de plus en plus chères. Donc le département pourrait aider là-dessus.
Alors, on va parler, on va essayer d'avancer. On va parler santé. Il y a des déserts médicaux un petit peu partout en France. Qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer d'endiguer le problème ? Même si à l'échelle du département, ça risque d'être un peu compliqué pour tout le monde.
À l'échelle du département, ce qui est possible, une des pistes qui est envisageable, c'est vraiment de travailler sur les maisons de santé. C'est ce qui se fait de plus en plus. Ça a un grand avantage, c'est que déjà ça peut être du foncier, donc des bâtiments qui appartiennent au département. Donc le département peut financer les structures, le bâtiment, ce qui est déjà un grand pas puisque ça coûte très cher. Et puis l'autre proposition par rapport à ces maisons de santé, c'est d'essayer de professionnaliser une partie du personnel de santé, c'est-à-dire que l'employeur sera le département, ce qui permet d'essayer d'attirer les professionnels de santé là où il y en a besoin et en leur proposant des locaux qui sont convenables et qui sont identifiés de tous et accessibles.
Vous voulez également créer une maison des femmes dans l'ouest des Yvelines. Alors, où, pourquoi créer cette maison et comment fonctionnera-t-elle ?
Alors, la maison des femmes, l'objectif, c'est de construire un espace qui serait de protection et de bien-être pour toutes les femmes, en faisant converger les réseaux associatifs, les professionnels et les collectivités locales. C'est pas forcément un lieu précis. C'est pas forcément un bâtiment précis, ça s'envisagera avec les différents acteurs qui participeront au projet. La structure exacte, elle est pas encore définie, on le verra avec les acteurs, puisque c'est eux qui connaissent le mieux ce qu'il faut faire. Mais l'objectif, c'est d'avoir un service qui soit unique, où il y aurait à la fois des solutions d'hébergement, l'accueil des femmes qui sont victimes de violences, et puis qui permettent de l'aide juridique, sociale, psychologique, mais aussi médicale. Peut-être de la garde des enfants, puisque par exemple quand une femme qui est isolée qui cherche un emploi aura beaucoup de mal à faire garder ses enfants pour aller répondre à des entretiens d'embauche, etc. Donc c'est essayer de réunir le plus possible tous les services qui sont actuellement éparpillés, par exemple les PMI, les femmes qui vont aller voir les PMI, puis après on va leur dire non, il faut aller voir tel service, et après tel service. Là c'est d'essayer de regrouper tout au même endroit pour simplifier vraiment les démarches et avoir un vrai accueil des personnes qui sont en souffrance et pour répondre à leurs besoins.
Alors on va continuer dans le social. Vous voulez renforcer les équipes, pardon?
Oui. Mais non, je voulais rebondir sur le social et sur la santé. Effectivement, juste donner quelques chiffres quand même parce que c'est important. Sur les autres départements en France, l'aide sociale, c'est environ 52% du budget. Alors le budget 2021 pour les Yvelines, ça représente 1,6 milliard d'euros. Et dans les Yvelines, l'aide sociale n'est qu'à 46%, d'accord ? Donc, à Mantes-la-Jolie, on sait aussi que la moyenne des salaires est très basse, le chômage est à 22%, la pauvreté est à 31%, et ces chiffres, ils explosent, notamment au Val-Fouré. Donc, on a une incohérence dans ces chiffres, on a un département des plus riches en France, et à côté de ça, on a une situation sociale qui se dégrade, et qui se dégrade encore plus avec le Covid. Donc moi je pose la question, quand on observe ces chiffres et qu'on voit le slogan de Pierre Bélier un département qui vous protège, oui, qui vous protège de quoi et comment?
Faudra lui poser la question. On lui posera la question. Donc, on va terminer avec le chapitre aide sociale. Vous voulez renforcer les équipes d'aide sociale à l'enfance?
Oui, alors ça englobe aussi les PMI hein, sur le dernier mandat et l'action de Pierre Bédier sur les départements. Ça a été de diminuer énormément les centres de PMI. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'au moment où il est arrivé à la présidence du département.
66% en moins.
Voilà, 66% en moins.
Donc ça... Il y a des bus aussi PMI qui viennent voir les gens dans les communes rurales, par exemple. Moi, j'habite dans une commune rurale, je sais que le bus PMI est passé par chez moi.
Oui, mais ça veut dire qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit. Donc c'est pas un service public qui est accessible tout le temps aux personnes qui en ont besoin. Donc ça passe par vraiment renforcer déjà les moyens financiers, hein, puisque on sait très bien que c'est comme ça que les services publics peuvent apporter justement le service et la qualité du service public, parce qu'en diminuant ces centres de PMI, forcément on a perdu en qualité, comme généralement quand on mutualise les services publics, on les éloigne des personnes qui en ont besoin, on les rend moins accessibles, et forcément la qualité perd. Aujourd'hui, on a des décisions de justice qui demandent à ce que des enfants soient placés, mais on n'a pas d'endroit pour les accueillir, et donc les enfants restent dans les familles, donc ça c'est la compétence de l'ASE, hein, de l'aide sociale à l'enfance. Et ça, c'est vraiment un gros problème de pas pouvoir sortir les enfants qui ont besoin d'être sortis des familles. Si la justice a décidé de les sortir, c'est qu'il y a une raison, donc il faut pouvoir les sortir immédiatement.
Alors, de la petite enfance, on va passer à l'adolescence. On va maintenant parler de l'enseignement et plus précisément des collèges. Vous désirez réaliser des collèges à taille humaine, c'est-à-dire vous avez des collèges en particulier dont vous voulez me parler ce matin?
Alors, des collèges en particulier, non, pas forcément, mais des collèges rénovés, ça, c'est vraiment une priorité. Et ça rejoint aussi un combat qu'on mène contre le bétonnage massif. Il faut arrêter de construire, il faut rénover l'existant de manière écologique. Et oui, des collèges à taille humaine avec moins de 500 élèves.
Parce qu'il y a un collège qui va se construire à Mantes-la-Jolie, hein, dans le canton. Hein. Il y a combien de places dans ce collège? 600?
Alors,
non, je ne sais pas, je vous pose la question.
Alors, je ne saurais pas exactement le chiffre non plus, mais effectivement, il y a un travail sur l'ensemble des collèges, pas que sur les nouveaux collèges, pour essayer d'avoir des collèges qui ne soient pas surdimensionnés. On sait très bien que la qualité de l'enseignement et la qualité de la façon dont les élèves se sentent dans les collèges diminue. Plus le collège est gros, moins on s'y sent bien. Donc, ça passe vraiment par des collèges à taille humaine. Il y a vraiment besoin de ça, hein. c'est pas juste comme ça une proposition.
Donc, si je vous comprends bien, vous voulez reconstruire de nouveaux collèges? Parce qu'aujourd'hui, les collèges, ils sont quand même assez conséquents. Il y a eu un plan, il y a quelques semaines, qui a été proposé par le département de rénover ou de reconstruire des collèges. Vous voulez en construire plus ou vous voulez rénover les anciens et mettre moins d'enfants? Mais bon, si on met moins d'enfants dans les collèges, obligatoirement, on va être obligé d'en construire plus.
Oui, ça passe par les deux. Évidemment, il faudra rénover les collèges qui sont déjà existants. On va pas les abandonner en construisant des nouveaux collèges, c'est pas l'objectif. Mais effectivement, il faudra construire des nouveaux collèges pour répondre à cette proposition d'avoir moins de 500 élèves dans les collèges. Mais ça s'étudie, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment étudier pour essayer de les placer au bon endroit. C'est pas quelque chose qui se fera tout de suite. C'est quelque chose qui s'étudie, qui prend du temps. Mais c'est l'objectif à atteindre.
Alors, puisqu'on est dans les collèges, vous voulez renforcer les dispositifs d'accompagnement de réussite scolaire et vous voulez également plus de, pour les cantines, la restauration scolaire, plus de local, plus de frais, plus de bio. Comment on arrive à tout ça?
Alors, le débat sur la restauration scolaire, généralement, elle est toujours envisagée de manière un petit peu accessoire dans les débats. Et pourtant, c'est une compétence départementale, en tout cas, à laquelle moi j'attache de l'importance. Pendant quelques années, j'ai fait de la prévention contre l'obésité infantile en milieu hospitalier. J'ai travaillé moi-même dans un collège yvelinois pendant plusieurs années. Et je mesure tous les enjeux qui se cachent derrière un simple plateau de cantine. Il y a des enjeux sanitaires qui sont évidents, qui sont urgents. Il y a des enjeux économiques, ça c'est évident. Il y a des enjeux écologiques. Développer le bio à la cantine, ça se fait aujourd'hui de manière, j'ai envie de dire, ponctuelle. On parle d'opérations bio, de circuits courts, de producteurs locaux. On fait des opérations de sensibilisation au gaspillage alimentaire, mais le vrai travail de fond, tous les jours, sur le long terme, il n'est pas fait. Et pourtant, cette prise de conscience, elle est assez urgente. Pour la santé des enfants, ça c'est évident, une alimentation saine, bio et locale. Donc effectivement, du bio tous les jours, la part belle aux produits locaux et de saison, la lutte contre les produits alimentaires industriels, des alternatives possibles à la viande aussi. Et moi, j'aimerais que soit développé au sein des collèges aussi un accompagnement régulier et des échanges avec des producteurs, des nutritionnistes, du personnel de santé, des chefs cuisiniers. Parce qu'il y a un enjeu politique finalement aussi derrière la cantine. On va en faire des adultes en bonne santé et aussi des futurs consommateurs plus que des consommateurs. Donc voilà, le passage à la cantine, il n'est pas anecdotique dans la journée d'un enfant. Et les répercussions, elles sont très importantes.
Vous voulez également créer un conseil de la vie collégienne. Expliquez-moi le concept.
L'idée du conseil de la vie collégienne, c'est d'impliquer les collégiens dans la vie de leur établissement, qui participent aux prises de décision, que ce soit pas uniquement la direction de l'établissement, avec en général des professeurs et des parents d'élèves, mais aussi directement les collégiens, puisque c'est quand même eux les premiers concernés par ces mesures-là. Donc ça rejoint ce qu'on propose de faire sur la démocratie en règle générale. Et puis, quand on parlait tout à l'heure de budget participatif, là également, l'idée, ça serait de mettre à disposition de ce conseil de vie collégienne un budget participatif pour faire des projets sur le collège.
D'accord, alors on va aborder un autre thème, la gestion des routes et des déplacements. Quelles sont vos idées? Vous êtes par exemple hostile? Enfin, vous voulez carrément supprimer les grands projets routiers en Val-de-Seine. Alors déjà, lesquels? Quel projet routier et pourquoi?
Non, alors déjà, dites pas qu'on est hostile.
Enfin, vous les supprimez. Il y a écrit supprimer, moi, voilà, vous les supprimez des grands projets routiers en Val-de-Seine.
Non, il faut que tout soit fait de manière raisonnable et toujours en fonction des besoins des citoyens et avec leur concertation.
Vous voulez parler de quelle route exactement?
Pour l'instant, je ne parle pas de route. Moi, je vois aussi ce que je vis au quotidien. On est dans les Yvelines et sur le papier, on a l'impression d'être près de tout, d'être près de la capitale, d'être près de pôles assez attractifs comme Saint-Quentin-en-Yvelines, etc. Et pourtant, chaque déplacement est problématique. Je vais prendre mon cas personnel. Je travaille aux alentours de Trappes. J'ai dû aménager mes horaires parce que le matin, je vais mettre 2 heures pour y aller. Pourquoi? Parce que la 13 est bouchée à partir de 6h45 et la 12 aussi. Et en fait, pour les salariés, tous les jours, ça représente entre 2 et 4 heures de transport, que ce soit en bus, en voiture ou en train. Donc les autoroutes, les routes sont blindées, les trains sont surchargés quand ils arrivent à l'heure ou quand ils arrivent tout court, et les trajets des bus sont parfaitement incohérents, les arrêts de bus sont mal... j'arrive pas à trouver mes mots...
Oui, ils sont mal placés.
Oui, voilà, ils sont mal placés, excusez-moi. Donc voilà, donc pour les trajets intra-communaux, il y a un vrai problème. Les pistes cyclables, c'est aussi un vrai problème. J'ai l'impression des fois qu'on fait des pistes cyclables, qu'on trace en trait rouge au stylo par terre, en se disant que c'est une piste cyclable, que c'est principalement pour le loisir, alors que ça doit être développé aussi pour les déplacements professionnels. Elles ne sont pas assez larges, elles ne sont pas assez sécurisées, enfin voilà. Il y a pas mal de choses qui sont faites un petit peu de travers. Donc effectivement, l'objectif, c'est de redonner la priorité vraiment au transport en commun, d'arrêter de bétonner les Yvelines à tout va avec des routes qui de toute façon vont être surchargées. Donc il faut redonner la priorité en transport en commun. Il faut remettre à plat et redéfinir un plan départemental de transport inter- et intra-communaux en concertation avec les communes. Vous avez des petites communes comme ça qui sont complètement isolées du monde. Moi, je sais que pas très loin d'ici, pendant des années, j'ai habité à Aulnay-sur-Maulde. Aulnay-sur-Maulde, si vous voulez vous déplacer quelque part, notamment à Mantes-la-Jolie, vous avez 2 bus. Un bus à 6h45, un bus à 13h45 et celui d'après est à 18h. Donc, il faut faire ça en concertation avec les petites communes aussi, ça c'est important. Et il faut redéfinir et mettre en place un réseau de pistes cyclables cohérent et sécurisé.
Eh bien, ça sera le mot de la fin, ça fait déjà 20 minutes. Audrey Allier, Dylan Gelton, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission sera diffusée et rediffusée à midi et 18h. À 8h30, nous recevrons Jean-Philippe Blot, candidat d'hiver gauche pour le canton de Mantes-la-Jolie. Excellente journée à l'écoute de BPM.